siècle, ce sont des forges. Et en revanche, la date butoir pour l'installation, la création des établissements a été fixée à 1950. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un site étudié a pu être démoli depuis l'enquête. En revanche, un établissement n'a été étudié que s'il en subsistait des vestiges lisibles ou du moins analysables. Et l'étude a ensuite croisé, comme je vous le disais, les sources et ces traces sur le terrain. Alors, ce protocole que je décris fait, en fait, induit qu'il ne s'agit pas d'une histoire industrielle. Il ne faut vraiment pas se tromper là-dessus, puisque les résultats de l'enquête ne coïncident que partiellement avec ce que l'on sait, ce que l'on sait, c'est-à-dire que des zones autrefois industrielles peuvent avoir perdu toute trace des établissements qui ont existé, on le sait, à ces endroits. Les objectifs de cette enquête étaient multiples. C'était d'abord d'identifier et de localiser les sites de production, de les dater et d'analyser l'organisation de chaque établissement, l'ensemble du bâti, alors c'est-à-dire les unités de production, mais aussi les bâtiments annexes. Ça pouvait être les bureaux, bien entendu, les logements, les cantines, etc. Et bien entendu aussi les équipements techniques de production. Alors, en premier lieu, cet inventaire conserve la mémoire des sites et des activités. Près de 988 usines ont été étudiées, identifiées, et c'est un nombre qui n'est pas négligeable pour une région qui est a priori considérée comme pas très industrielle et plutôt, elle est réputée plutôt pour son tourisme, son histoire et son agriculture. Et c'est d'ailleurs cette vocation première qui transparaît dans le corpus, qui, vous le voyez, est composé pour plus de la moitié d'industries agroalimentaires. Alors, le quart du corpus est constitué de moulins et de minoteries. Et puis, vous voyez, les distilleries d'eau-de-vie de cognac, les laiteries sont aussi très nombreuses, au nombre à peu près de 120 pour chacune. Sinon, lorsque vous voyez, il y a d'autres industries, ce sont des biscuiteries, des chocolateries, des usines de pâte alimentaire, etc. La part de l'extraction et de la transformation des produits minéraux en rouge est relativement importante aussi, et cela s'explique en raison de la grande variété du sous-sol de la région. On a à la fois du calcaire, du granit, du schiste, de l'argile rouge, de l'argile blanche, tout ça qui a pu être transformé, exploité. Le secteur bois et papier en marron est à peu près équivalent à celui de la peau et du textile en vert. Et ces deux secteurs sont donc à peu près équivalents, et tous deux, en fait, se sont industrialisés à partir d'activités anciennes, et donc se sont industrialisés plus ou moins tôt, selon les cas. Alors, ce que l'on constate aussi, c'est la part du métal qui, elle, est assez. Donc, c'est la fabrication, la transformation du métal. On le voit numériquement, c'est assez faible, mais alors ça ne correspond que partiellement à la réalité des faits, puisque parmi ces quelques usines, il y a de très grosses usines comme Alstom à Étré, Leroy-Somer à Angoulême, où on a Eliès aussi à Cerizay. Donc il faut bien sûr se méfier toujours des représentations graphiques. Et puis le reste en bleu, c'est qu'on est composé d'usines chimiques, d'usines de verre ou d'usines aussi fournissant l'énergie. Alors, plus finement, qu'est-ce que donne à voir le corpus? Alors, en premier lieu, des sites majeurs, les quatre manufactures d'État, l'arsenal de Rochefort fondé en 1666, la fonderie de Ruelle créée en 1751 et rassemblée quelques années plus tard au domaine royal, la manufacture d'armes de Châtellerault fondée en 1819 et la poudrerie d'Angoulême créée en 1824. Alors ces lieux ont joué un rôle, il faut le savoir, un rôle très important d'émulation pour les autres industries régionales, parce que dans ces sites, on y a fait des expérimentations, tant en matière de gestion, de technique que d'architecture. Et cela a eu un impact fort, très fort sur l'industrie régionale. Alors, certaines activités, par le nombre d'établissements qu'elles ont générés, et par leur caractère ont fait la réputation de la région en matière d'industrie. On l'a évoqué tout à l'heure, le beurre des Poitou et de Poitou-Charentes, qui s'est fait donc une place de choix par sa qualité sur les marchés parisiens, surtout dès la fin du 19e siècle, et plus tard sur les marchés internationaux et de luxe, comme donc on l'a vu tout à l'heure, le beurre de Shiré qui est exporté au Japon et aux États-Unis, dans les établissements les plus prestigieux. Et puis, bien sûr, le cognac, production éponyme de la ville, qui est lui aussi reconnu comme produit phare de la région sur les marchés français et surtout mondiaux, où il est exporté massivement, même en Asie, comme vous le voyez sur la petite affichette qui date des années 30, en bas à droite. Et là aussi, une reconnaissance ancienne, puisque les premiers décrets concernant l'appellation d'origine contrôlée datent, se sont échelonnés entre 1909 et 1936. Et parallèlement à ces activités phares, se sont développées des activités que l'on associe généralement moins à la région, la construction automobile et ferroviaire, la fabrication de chaux, la construction de matériel agricole, la chamoiserie. Et puis, des activités plus insolites encore ont existé, comme la distillerie d'alcool de betterave, la préparation de crin, la tannerie de Peaudoie, qui est quelque chose d'assez original, la filature de genêt, la fabrication de graisse, d'allumettes, de galalite à partir de la caséine, donc, qu'on a évoqué tout à l'heure, donc à partir du lait. Et puis, on a aussi de la transformation de la résine de pin, de l'argile blanche en chamotte pour les faïenceries. Des usines de grande notoriété ont également été créées dans la région. C'est à Parthenay, par exemple, que Jean Panzani a fondé en 1946 son usine de pâtes alimentaires qui s'est installée environ 15 ans plus tard à Marseille. Alors, lorsqu'on analyse le corpus, on s'aperçoit que la majorité des usines, donc des 988 usines, sont des établissements familiaux, donc plutôt modeste, où se sont succédées plusieurs générations souvent. Ce n'est pas rare qu'une entreprise soit restée aux mains d'une même famille pendant 4-5 générations, et surtout dans le cas des minoteries. C'est vraiment quelque chose qui est très présent dans ce type d'industrie. Alors, nous le voyons... Au final, donc, grâce à cette étude, la mémoire des sites étudiés est conservée quelque part. Certains de son sites sont d'une très belle qualité, d'une grande qualité architecturale. Je vous en ai sélectionné quelques-unes. Et parallèlement, l'inventaire apporte un témoignage aussi sur la transformation des paysages, puisque l'implantation d'une usine, quelle qu'elle soit, suppose des aménagements. Alors on pense aux aménagements d'un cours d'eau lorsqu'il s'agit d'une usine hydraulique, et puis bien d'autres modifications, les activités d'extraction, par exemple, comme les cimenteries, transforment complètement leur environnement. Et nous avons aussi le cas d'usines implantées en pleine nature, comme ici, en bas à gauche, l'usine Saint-Gobain, qui s'est implantée à Marennes, dans les Marais, et qui a créé un nouveau paysage avec la construction d'immenses bâtiments et l'aménagement de voies de communication, canaux et voies ferrées. Et puis cette usine, une fois désaffectée, bien, les bâtiments ont été démolis pour la plupart, il ne reste plus qu'un un bâtiment quelque part perdu, et le paysage qui subsiste est très peu compréhensible actuellement. Alors, l'industrie, ce sont surtout des équipements techniques que l'étude permet aussi de connaître, ou au moins d'approcher, des équipements très différents, spécifiques et adaptés à chaque activité. Alors, j'ai fait un choix très éclectique pour vous montrer d'abord des foulons à mailler d'une chamoiserie à Niort, ce sont des machines entièrement en bois qui servaient à battre les peaux pour qu'elles s'imprègnent d'huile, et qui ont été, donc ce sont des foulons qui datent de la fin du 19e et du tout début du 20e, et qui ont été construits sur le modèle décrit dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert au 18e siècle. Et il apparaît que ce sont les derniers foulons de ce type qui existent en France actuellement. Une autre machine très différente, alors ça c'est une presse à briquettes de charbon, là c'est pour constituer des briquettes agglomérer la poudre de charbon en briquettes. Et c'est une machine qui date du début du XXe siècle, que j'ai vu fonctionner en 1997 à Tonnet-Charente dans une usine d'aggloméré de charbon. Et il paraît là aussi qu'il s'agit d'un type de machine qui est unique en France. Très rare, mais beaucoup plus modeste, vous le voyez. Une machine à casser les œufs à la main dans une casserie d'œufs à Pleumartin dans la Vienne. Cette machine permettait à quelqu'un de casser 1500 œufs à l'heure. Et elle a été remplacée en 79 par une machine conçue dans l'entreprise même, je crois, qui permettait à ce moment-là de casser 11 000 œufs à l'heure. Alors moi, c'est pas moi qui ai... En fait, j'étais pas... Je pense que la personne casse l'œuf ici, et en fonction du poids, le blanc et le jaune se séparent. Et donc, il devait y avoir des récipients qui recueillaient le blanc et le jaune. Alors moi, je ne l'ai pas vu fonctionner, puis ce n'est pas moi qui ai fait l'enquête à ce moment-là, mais je pense que c'est ça. Alors, un autre type d'équipement, c'est un équipement de laiterie, de beurrerie. Donc, c'est exactement ce que vous évoquiez tout à l'heure. La baratte que nous avons vue à Échiré, ici, ce n'est plus une baratte qui tourne, c'est une baratte en continu. Donc, ça fonctionne. Le beurre sort ici, on verse du lait, de la crème d'un côté, et le beurre ressort ici en sorte de boudin, enfin, monsieur Vatin me dira. Et puis là, c'est une machine pour ensuite faire les plaquettes de beurre. Et là, c'est un équipement qui date des années 60 et qui était encore en fonctionnement aussi dans les années autour de 97, lorsque je suis allée dans cette beurrerie. Une toute autre machine, une linotype d'imprimerie à Poitiers, une machine pas très très ancienne, elle date des années 60. 50 peut-être, 50-60, et bon, bien sûr, c'est un équipement qui ne fonctionne plus à l'heure actuelle. Et puis un autre type, alors là, beaucoup plus répandu, puisque ce sont des machines à cylindres d'une minoterie. Dans la mesure où on a pas mal de minoteries dans la région, on a des équipements encore présents, assez nombreux. Mais là, c'est assez intéressant quand même, parce qu'elles datent du premier quart du XXe siècle. Et puis, l'étude aussi permet d'appréhender des équipements encore un peu plus récents et plus originaux, peut-être. Là, c'est dans une fabrique de graisse à Niort. Et ce sont des autocuiseurs qui permettent de faire cuire la graisse. Donc là, vous avez quatre autocuiseurs sur une plateforme. Un des autocuiseurs, les trois autres. Et ça, c'est un équipement qui date des années 80, à peu près, et qui fonctionne aussi encore. Les innovations en matière d'équipement technique induisent une constante évolution des savoir-faire qui ont été appréhendés dans la mesure du possible lors de cette enquête. Là, par exemple, j'ai trouvé ça intéressant puisque dans la porcelainerie des Houlières à Chauvigny, lors de ma visite en 1995, il y avait encore des activités, plusieurs techniques étaient utilisées de front. Alors vous avez de bas en haut, par exemple à gauche, le travail manuel d'une coupe sur un moule en plâtre, et en bas, le même travail, mais effectué par une machine. Et puis à droite, vous avez aussi la fabrication par moulage dans des moules en plâtre. En haut, la personne verse manuellement la pâte liquide dans un moule, alors qu'en bas, c'est une machine à coulage par injection qui assure ce travail. Ensuite, vous voyez, il y a une personne qui démoule. Le démoulage était encore fait manuellement, mais sinon, c'était avec un système de moule en résine et une pâte beaucoup moins liquide était injectée par la machine. Donc, on a une évolution des techniques qui est inéluctuable et puis des savoir-faire qui doivent accompagner cette évolution en continu. Ce regard sur l'industrie permet de capter quelquefois l'esprit des époques, et notamment à travers des publicités. Ici, vous avez deux publicités des années 1920 et 1926 pour de l'engrais à base de déchets de poisson et du papier à cigarettes. La première, vous le voyez, évoque le nationalisme au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'autre, de style orientalisant, on évoque plutôt l'arrière-plan colonialiste. Et dans la région, on l'a évoqué tout à l'heure, l'étude a mis en évidence l'organisation économique et sociale spécifique qui a résulté de la crise du phylloxéra, c'est-à-dire la coopération laitière. Donc je vais passer rapidement là-dessus, juste pour vous montrer un petit peu l'ampleur de cette dynamique-là. Vous avez les coopératives en orange foncé, les laiteries particulières en jaune plus clair, et vous voyez très bien la zone Nord-Charente-Maritime et sud de Sèvres, très très avec un fort fort développement de ces laiteries. Il faut savoir qu'en 6 ans, entre 1888 et 1894, 50 laiteries coopératives ont été créées. Donc c'était vraiment, c'était effectivement des petits établissements, mais c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, en passant rapidement, on l'a dit tout à l'heure, donc cette organisation s'est fondée sur l'entraide et les groupements de cultivateurs se sont organisés assez vite en association centrale qui s'appelait donc l'Association centrale des laiteries coopératives de Charente et du Poitou et qui a permis de trouver des débouchés sur les marchés parisiens et d'organiser le transport du beurre par train. Tout à l'heure, on a évoqué la caséinerie de Surgères, c'est ce bâtiment. Donc dans ce bâtiment était apportée la caséine fabriquée dans les diverses laiteries sociétaires. Et cette caséine qui se présentait en forme de pain était traitée comme le blé. Si vous voulez, l'équipement de la caséinerie de Surgères ressemble, c'est une minoterie, mais au lieu de traiter le blé, elle traite la caséine qui est réduite en poudre. Et puis l'une des réussites aussi de cette association, de cette organisation, c'est la conception d'un modèle architectural. Vous reconnaissez ici la laiterie déchirée qui a été bâtie en 1905 et qui est un modèle qui va devenir le modèle de référence qui est largement suivi par les nouvelles laiteries de la région et aussi d'autres régions, et notamment en Touraine, où grâce à la diffusion des revues consacrées à l'architecture, ce modèle va être diffusé. Si les objectifs de l'enquête étaient liés à l'architecture et aux équipements techniques, elle évoque néanmoins forcément la mémoire des hommes. Par les témoignages, même s'ils n'ont pas été enregistrés, puisque des informations m'ont été transmises lors des visites sur le terrain, et surtout par les photographies, alors souvent des cartes postales, mais aussi quelquefois des collections de photos qu'on a eu la chance de reproduire. Et j'avais envie de vous montrer une petite collection que nous avons reproduite. Donc, ce sont des photos des années 1950-60 dans une usine de pile, l'usine de pile Le Clancher, qui s'est installée dans un ancien abattoir construit entièrement en béton armé en 1919 à Chasseneuil-du-Poitou. Alors, je vous dis entièrement en béton armé parce que là, ce sont deux photos qui permettent de voir un petit peu comment se présentaient des bâtiments qui sont maintenant démolis. Il reste une partie des vestiaires qui datent des années 50, mais le bâtiment d'origine de l'abattoir a complètement disparu. Et grâce à cette collection de photographies, on peut voir toute la chaîne de production, depuis le bureau d'études jusqu'au conditionnement des piles dans un magasin, en passant là par le laboratoire de contrôle des électrolytes. On se rend compte que dans les ateliers, il y avait de nombreuses femmes donc employées à la chaîne de fabrication des piles, avec des conditions de travail. Là, c'est une très belle photo, je trouve, avec l'énorme machine qui engloutit cette femme. Et puis, des hommes étaient plutôt, eux, employés à la fabrication de piles militaires qui devaient être trop lourdes pour les femmes. Là, vous avez une chaîne avec le sertissage, la peinture, et cet homme dépose les piles sur des palettes. Ça semble être de l'emboutissage. Là, un autre atelier, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a... Enfin, ça n'est pas un témoignage vraiment de la pénibilité du travail, mais on sait que dans cet atelier, on touchait des produits hautement toxiques qui étaient du bioxyde de manganèse et avec du charbon. Et donc, on sait que malheureusement, les gens qui travaillaient dans cet atelier ont été atteints de maladies très, très précocement. Et puis aussi quelque chose qui est très rare, enfin c'est le seul exemple qu'on ait nous dans la région, C'est une photo de la cantine à midi, lors de la pause. On voit que non seulement il y avait donc a priori un service assuré, mais aussi où les gens pouvaient, où les ouvriers pouvaient apporter sans doute leur gamelle. Alors évidemment, une telle documentation photographique aussi complète est rare, mais grâce aux archives, nous avons tout de même une connaissance de l'homme au cœur de l'industrie, et notamment parmi ces hommes, l'étude donne à voir les entrepreneurs. Le caractère de passage de la région a favorisé les échanges et les contacts, et de nombreux entrepreneurs sont étrangers à la région. Alors depuis les premiers négociants de cognac qui sont venus d'Écosse, d'Irlande, d'Angleterre et de Hollande, ceux du papier qui venaient aussi de Hollande. Et puis ils sont aussi nombreux à être venus d'autres régions. On a par exemple le cas de Bordelais qui sont venus s'installer dans la région, dans la tannerie à Montguyon, le traitement de crin à Usseau, le papier à Cormécluse et Saint-Séverin, la farine à Aurignol et Saint-Georges-d'Antignac. Donc on a cette présence d'entrepreneurs venus d'autres régions. Alors qui sont les entrepreneurs en général? Avant le 19e siècle, la grande industrie est souvent le fait de la noblesse. Des établissements de forge sont créés au sein des domaines pour les valoriser. C'est ainsi que le duc de la Meilleraie va fonder une forge, tout comme le marquis d'Alembert à Ruel. Donc la fameuse fonderie de Ruel a été créée par lui. Et plus tard, au XIXe siècle, en raison même des investissements que toute entreprise suppose, l'industrie est encore en fait le fait des notables et des grands propriétaires. Alors on a l'exemple du marquis de Nettencourt-Vaucourt qui obtient la concession de l'unique mine de charbon de la région à Saint-Laure. Et puis on a aussi une laiterie créée par le comte de Montebello. Alors pour ces notables, se mêlent, on a l'impression comme cela en lisant les archives, tout ce qu'on peut trouver. Il y a une certaine forme de goût du risque, de la nouveauté aussi, et puis de la stratégie politique. On a l'exemple du comte de Mossabré, royaliste, qui a créé plusieurs laiteries dans les Deux-Sèvres pour tenter de contrer le mouvement coopératif de tendance républicaine, comme le disait tout à l'heure M. Cochet-Marbeuf. L'étude permet de découvrir ou redécouvrir des hommes exceptionnels, des mécaniciens, des inventeurs, puisque l'industrie, c'est un vrai domaine d'innovation. L'un des plus illustres, Jean-François Caille, est originaire des Deux-Sèvres. Son parcours lui a permis de franchir toutes les étapes, du statut de jeune compagnon du Tour de France en chaudronnerie jusqu'à celui de plus grand patron et de personnalité du Second Empire. Et d'ailleurs, la création d'une sucrerie de betteraves à Saint-Léger-de-la-Martinière lui est due. Et cette usine fonctionne toujours donc près de Mel, sous le nom de Rodia actuellement. Et puis, l'industrie régionale a bénéficié de différentes recherches et inventions dans des domaines variés. On a Jules Marou qui a déposé une série de brevets entre 1857 et 1900 pour améliorer les trieurs. Ces trieurs qui se sont vendus dans le monde entier, ils étaient fabriqués à Niort et on sait ça a été un succès mondial. Pierre-Émile Martin a mis au point en 1864 le procédé de l'acier dans un four à sol à Sireuil en Charente. Et puis on a aussi Eugène Vason à Hervaux qui a permis que la fabrication de la chaux devienne plus économe en combustible en inventant, en mettant au point une chambre de préchauffage au-dessus de du four lui-même. Parlons maintenant des ouvriers. Sans eux, forcément, l'entreprise n'aurait rien été. Et on constate tout d'abord au XIXe siècle la difficulté pour un paysan de devenir ouvrier, de respecter les horaires, et cela toute l'année en dépit des travaux agricoles à réaliser durant certaines saisons. Des usines voient leurs effectifs diminuer en été au temps des moissons, par exemple. Et dans les années 1860, une distillerie d'alcool de betterave de Coulon ferme en raison de 6 ans après sa fondation et en raison de l'incompréhension qui règne entre le patron et les ouvriers. Bon, les choses ne vont toutefois, et heureusement, pas toujours aussi loin, mais des grèves, forcément, ont lieu dans le but d'améliorer les conditions de travail très dures dans certains secteurs. On peut penser à la mine de charbon de Saint-Laure, où donc, il y a eu des grèves, les usines d'engrais chimiques aussi, les tuileries, briqueteries de Roumazières, les carrières, etc. On s'aperçoit de l'importance des migrations, des populations et leurs conséquences sur le plan industriel et des savoir-faire et des liens entre les régions limitrophes. On a les tuiliers du Limousin qui sont venus s'engager pour la saison dans les tuileries du Poitou-Charentes et qui, en fait, y sont restés, apportant avec eux leur savoir-faire. On a aussi leur savoir-faire et leurs habitudes de travail. Et puis, après la crise du phylloxéra, on nous le disait tout à l'heure, les Vendéens sont des Vendéens qui ont racheté les terres et qui ont favorisé, donc qui ont fait en sorte de transformer ces terres, les terres viticoles, en terres d'élevage. Et puis, on a fait également appel à une main-d'œuvre étrangère, nord-africaine, surtout dans les usines d'engrais, italienne dans les carrières de la Vienne dans les années 1920. Lors de l'enquête, les témoignages des anciens ouvriers étaient souvent ambivalents dans le sens où un sentiment de fierté par rapport à leur passé professionnel, il y avait leur savoir-faire, par exemple, leur capacité physique, la difficulté des tâches qu'ils accomplissaient. Donc ça, ils en étaient fiers. Et puis en même temps, se mêlait la nostalgie en se souvenant des camarades, des moments conviviaux partagés, mais aussi une certaine amertume, surtout lorsque l'entreprise avait fermé soudainement de façon assez incompréhensible pour eux. Donc là, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas forcément. Et on retrouve cette ambivalence de sentiments dans le reste de la population. Les voisins, notamment, dont la vie était rythmée par la sirène de l'usine, par l'embauche des ouvriers. En général, ils évoquent les nuisances occasionnées par l'usine, le bruit, les odeurs, la poussière, mais les témoignages sont souvent pourtant nostalgiques. Et là aussi, on se dit, c'est vrai que l'usine, elle faisait vivre le quartier, la ville, donc il y a vraiment cette ambivalence qui existe. Alors, en raison de la modestie de la plupart des entreprises de Poitou-Charentes, on n'a pas ici une politique sociale très, très importante comme dans d'autres régions. Et on a assez peu, par exemple, de cités ouvrières. Il n'y en a vraiment qu'autour de très grandes usines à Ligugé ou à Tonnet-Charentes. Mais on en a assez peu. Quelquefois, certaines grandes entreprises ont pu jouer un rôle fédérateur social. Par exemple, l'école de la manufacture de Châtellerault a permis à de nombreux jeunes d'accéder à une situation professionnelle enviable. Et puis, de rares établissements ont créé des crèches, des sociétés sportives aussi. À Niort, le club de foot des Chamois est fondé en 1925 par l'entreprise de chamoiserie Boineau. Alors, pour terminer, ce travail a apporté une vraie connaissance, parce qu'en fait, il est surprenant de constater que la mémoire collective est souvent vacillante, voire inexistante, pour les établissements ayant fermé depuis 40, 50 ans. Dans bien des cas, souvent, seul le nom de la rue ou le nom de la parcelle sur le plan cadastral évoque encore la présence de cette usine. Alors, donc d'un côté, il y a cette vraie connaissance, on vient de voir, des sites, des activités. Mais il est certain que l'homme, l'ouvrier, n'apparaît qu'en filigrane au travers de cette étude, de cette enquête. Alors, le thème de l'étude se prêtait particulièrement à un recueil de la mémoire, alors que le protocole adapté évacuait cette notion-là. Cet aspect. Et c'est pourquoi les élus de la région ont décidé de poursuivre ce travail d'enquête sur le patrimoine industriel par l'inventaire des mémoires ouvrières qui vise avant tout à conserver, valoriser et transmettre et favoriser la transmission de ces mémoires.
Merci beaucoup. Alors, il nous reste un petit quart d'heure de discussion, et cette fois-ci, le chronomètre sera impitoyable parce qu'un taxi attend les Parisiens et autres non poitevins à 18h.
J'ai fait passer l'ouvrage qui a été édité par l'inventaire. Y a-t-il des questions ?
Peut-être pour parler d'un travail qu'on est en train de conduire du côté des Val-de-Gartempe et Creuse, c'est vraiment tout à fait à la marge de Poitou-Charentes, à la marge du Berry, sur une mémoire ouvrière mais qui n'a pas de substrat architectural, parce que c'était des ouvrières qui travaillaient sur de la broderie à fil tiré, mais qui avaient en fait une dimension, je dirais, de type industriel, en ce sens que c'était par centaines que les femmes travaillaient. Et c'était en relation avec des chemiseries de l'Indre ou alors des commandes qui venaient de Paris. Et on est dans la situation où, en fait, le support, il y a encore des femmes qu'on peut interroger, des fois des centenaires, mais il y a quand même des plus jeunes. Et un élément de support fort, c'est l'objet lui-même produit, c'est-à-dire le tissu, la manière dont les gens peuvent montrer les objets, sachant qu'ils le produisaient soit à domicile ou soit en atelier qu'on appelait les ouvroirs. Donc peut-être que ça pourrait entrer dans la logique de cet inventaire des mémoires ouvrières, si on accepte que les ouvrières à domicile font partie des... avec notre question.
Pas de problème.
Voilà, oui, tout à fait.
François Bigot, Association Val-de-Gartempe, Creuse-Anglin.
Alors c'est vrai que nous, à l'inventaire, le protocole évacuait aussi ce type de production. Alors je sais que j'ai des collègues, par exemple, qui ont travaillé dans le Jura sur les horlogers, qui travaillaient à domicile aussi, et eux, ils ont réussi à... C'était tellement important, et là, bon, c'est vrai qu'on peut effectivement considérer que la production est industrielle et voir à travers le produit. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué après de considérer le produit parce que... ça devient énorme, quoi. Déjà le champ, donc de par les activités multiples, est très très grand. Et si on se met à considérer chaque produit fabriqué, c'est vrai que ça devient, à mon sens, c'est quelque chose.
Je crois surtout que c'est parce qu'au départ, on voit bien dans la logique du ministère de la Culture, l'idée c'était le patrimoine bâti. Hein. Donc on a déjà étendu la notion de patrimoine bâti ou patrimoine industriel, ce qui n'était pas évident a priori. Et puis c'est effectivement à partir de là, une fois qu'on a eu ce patrimoine industriel, qu'on s'est dit c'est pas tout d'avoir les murs. Ce qui était important finalement, c'est ce qui se passait dedans. Et ça pose effectivement de façon pertinente la question qui vient d'être posée là, c'est-à-dire qu'une bonne partie finalement de la mémoire industrielle est dans des ateliers dispersés dans les domiciles des personnes et donc ne répond pas finalement à cette logique initiale qui consiste à identifier des lieux sous un petit peu la figure de l'usine. Oui, je pense que votre réflexion de ce point de vue-là est très importante.
Mais c'est quand même très important numériquement dans le Berry. Les femmes ouvrières dans les années 40, 50, 60 étaient plus nombreuses que les hommes ouvriers. Et en grande partie, travailler à domicile avec justement des problèmes de décompte. C'est-à-dire qu'on ne compte généralement que celles qui étaient dans les fabriques. Alors qu'elles pouvaient être plus nombreuses. Et on a vu des cas même de fabriques qui fermaient et la production qui continuait parce qu'on préférait faire travailler à domicile plutôt que de concentrer en entreprise.
Non, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui, il y avait donc... On n'est pas forcé de...
Non, mais...
Hein? Donc, s'il n'y a plus de questions, on va peut-être en arrêter là, en remerciant tout le monde. Hein.
Bon, oui, mais je pense que tu devais clore la journée.
Sur le programme, il y a écrit clôture. En général, c'est le genre de choses qui sont écrites et que personne n'a jamais à faire, puisque c'est la dernière minute et qu'on s'en va comme ça. Non, simplement, effectivement, d'abord quelques mots pour remercier tout le monde, pour exprimer la satisfaction, en tout cas, qui fut la mienne comme organisateur scientifique de cette journée, sur la qualité de ce qui a été présenté et des échanges. Je trouve... qu'il y a là un enjeu important puisque disons, bon, en tout cas c'était mon objectif, moi j'ai le sentiment de l'avoir atteint, je ne sais pas ce qu'en a pensé le public, mais on a d'un côté des réunions académiques, universitaires, autour d'un certain nombre de thématiques, en général bon, ciblées de façon plus ou moins étroite, et puis de l'autre côté des démarches effectivement mémoriales, qui donne souvent dans la nostalgie où effectivement on a évoqué tout à l'heure la question de l'émotion, la place qu'il faut lui donner. J'ai le sentiment que nous avons réussi à tenir un juste équilibre entre ces deux dimensions, c'est-à-dire eh bien, effectivement de restituer dans un ensemble de cas de figure, cette mémoire avec l'émotion qui va avec. Je pense que c'est difficile de nier son existence, mais en la tempérant par une réflexion sur le sens qu'on l'on peut donner à cette expérience, la valeur que cela peut avoir pour les enjeux contemporains et la nécessité donc que finalement ces récits soient également instrumentés. Alors on a pas beaucoup évoqué les sciences sociales, mais je pense que c'est quelque chose d'important. Hein, comment, effectivement, les sciences sociales permettent d'instrumenter un certain nombre de choses, et dans cet échange qu'évoquait Yves Schwartz tout à l'heure, c'est-à-dire de ce besoin respectif que, finalement, les porteurs de l'expérience peuvent avoir des interlocuteurs académiques, et réciproquement, la nécessité pour les interlocuteurs académiques, enfin pour les producteurs académiques, de s'appuyer sur cette expérience, mais aussi de restituer aux personnes qui la portent leur propre expérience, celle du travail de pensée, dans la capacité finalement, encore ce que j'évoquais tout à l'heure, sur le terme d'instrumenter finalement, ces données, ces matériaux. Et ça, je trouve que nous avons réussi à le faire aujourd'hui, enfin en tout cas... Tel est mon sentiment. Et l'enjeu est bien sûr de nous aider à penser les enjeux du présent, à voir quelle place ce matériau peut avoir pour continuer à nous penser le travail aujourd'hui. Voilà, je vous remercie.
Avec nous aussi sur le terrain, les visites à Châtellerault, tout le travail qui est fait autour de Châtellerault et de la mémoire ouvrière. Donc je voulais aussi citer Pierre Perrault, sociologue et chargé de mission à l'Espace Mendès France. Et merci à la région Poitou-Charentes. Et puis on espère se revoir incessamment sous peu. En tout cas, on a passé une excellente journée avec vous. Merci bien.
Merci à toi.